Pour adapter le langage à cette formidable rupture qui a eu lieu autour des années 1870-1880, passant du monde de la forme à un monde où l'on construit par éléments fonctionnels, par éléments en fonctionnement, comme vous nous l'avez montré, Henri Van Leer, nous avons vu qu'il avait fallu, avec Verlaine et Rimbaud, un ivrogne, brutal et mystique, ou qu'il avait fallu un adolescent, plus adolescent que tous les autres ensembles. Eh bien, il y a un troisième personnage qui pouvait peut-être réaliser cette mutation extraordinaire, et c'est un prof d'anglais, à savoir Mallarmé.
Un prof d'anglais prenant ces deux langues au sérieux, le français et l'anglais, dans leur rencontre. Et en effet, il a écrit un livre de 300 pages appelé « Les mots anglais » qui commence par cette phrase « Qu'est-ce que l'anglais ? Sérieuse et haute question. » Ce qui le renverse certainement, c'est tout d'abord les possibilités syntaxiques de cette langue. En effet, dit-il, comment est-ce que les langues se forment, ou bien par évolution naturelle, comme le français du Xe-XIe siècle, ou bien par évolution savante, comme le français du XVIe siècle. Mais il y a une troisième manière pour une langue de se former, c'est de conjuguer deux langues. Et c'est ce qui s'est passé pour l'anglais. Et il n'en revient pas devant cette phrase prodigieuse. « I see the woeful day fatal come. » Extraordinaire. Je vois the day, je vois le jour. Woeful, ce jour est terrible, en même temps fatal, mais en même temps, un des adjectifs est anglo-saxon et l'autre est français. I see the woeful day fatal, le mot français, come. D'où l'anglais vit dans une situation non seulement sémiotique, comme tous les êtres humains, c'est-à-dire qu'il fait des signes, crée des systèmes de signes, mais dans une situation sémiologique, c'est-à-dire qu'il est obligé de réfléchir sur la nature profonde des signes, puisque à tout moment, il joue avec deux langues et en même temps, c'est très bien remarqué Mallarmé, il joue avec deux époques. Il joue avec son présent, le mot anglais « woeful » et un mot médiéval qui reste médiéval, qui est « fatal ». Eh bien, lui, Mallarmé, mais cette fois-ci à la française, avec la distance particulière, dit-il, qu'un étranger peut avoir sur une autre langue et qui lui donne une perspicacité que le natif n'a pas, il va, à partir de l'anglais, faire toute une théorie du langage. Il voulait, somme toute, faire deux volumes. Un volume de syntaxe. Il n'a jamais pu l'écrire. Mais ce que nous avons, c'est le premier volume sur les mots, et voici le genre de choses qu'on y trouve. Des pages et des pages où il essaye de comprendre les mots anglais, à partir de quoi ? Eh bien, à partir de leurs voyelles, et à partir de leurs consonnes. Je vais prendre les consonnes, ce sera plus simple, c'est peut-être aussi plus typique, puisque, nous dit Mallarmé, en fin de compte, le sens du mot anglais tient vraiment dans la consonne initiale. Et voilà qu'il nous lance à la tête. Babe, bag, babe, bad, beach, beer, beach, bag, bell, ben, better, etc. Et maintenant, la remarque, B fournit de nombreuses familles, etc., de mots. Cela, dit-il, pour causer l'essence, divers et cependant liés secrètement tous de production ou enfantement. Tiens, rappelons-nous les fameux B de Flaubert. Et voyons ce qu'il dit ici du B, pour voir s'il y a quelque chose qui nous renvoie à ce que naïvement nous avions cru trouver chez Flaubert. De production ou enfantement, de fécondité, d'amplitude, de bouffissure et de courbure, nous y sommes bien, hein, de vantardise. Oh, si Flaubert avait connu ce texte. Puis de masse. Et d'ébullition, et quelquefois de bonté et de bénédiction. Et puis redonne une liste de mots en disant « Jouez alors avec tout ça, bad, bold, bin, bang, bear, etc. » Ge est tout aussi amusant au début d'un mot, vous voyez sans doute pourquoi, puisque ça nous introduit à girl, à give et à ghost. Qu'en dit-il? Ge a son importance, signifiant d'abord une aspiration simple vers un point où va l'esprit. Que cette gutturale, toujours dure, en tant que première lettre, soit suivie d'une voyelle ou d'une consonne. Ajoutez que le désir, ah tiens, le « gueux » va devenir la consonne, du moins en anglais, dans le système de la phonologie, de la phonématique anglaise. Hein. Ajoutez que le désir, comme satisfait par elle, exprime avec la dite liquide, joie, lumière, etc., et que de l'idée de glissement, on passe aussi à celle d'un accroissement par la poussée végétale ou par tout autre mode. Avec air, enfin, il y aurait comme saisie de l'objet désiré avec elle, ou besoin de l'écraser et le moudre. Rappelons-nous, chez Baudelaire, l'homme, élégant, robuste et fort, avait le droit d'être fier des beautés qui le nommaient leur roi, fruit pur de tout outrage et vierge de gerçure, dont la chair lisse et ferme appelait les morsures. Avec air, enfin, il y aurait comme saisie de l'objet désiré avec elle, au besoin de l'écraser et le moudre, nous avons dit, je crois, de le tresser. Pourquoi Mallarmé avait-il besoin de toute cette attention à ce qu'on pourrait appeler le sens phonique des mots, en plus de leur sens simplement lexical? Oh, ça tient d'abord à un certain environnement. Nous sommes à l'époque du Parnasse, où on a vu toutes les possibilités du langage, disons, je ne sais pas, par exemple, la suite iambique, suivez bien les iambes, donc brève longue, de Le Comte de Lisle, une ondulation majestueuse et lente s'éveille et va mourir à l'horizon poudreux. Mais chez Heredia, on trouve des choses déjà plus sophistiquées, en ceci que le sens lexical ne correspond pas au sens phonique, et la sueur coulait de leur visage brun. Alors brun veut dire quoi? Bien sûr qu'ils étaient un peu moricauds, qu'ils étaient un peu foncés, ou qu'ils étaient mal lavés. Mais ça veut dire aussi que pour finir, ils avaient un menton pointu brun, où vient aboutir la sueur. Et la sueur, ça se passe à peu près au niveau du front, coulait à peu près au niveau des yeux, de leur visage, au niveau des joues, brun. Et la sueur coulait de leur visage brun. Eh bien, Mallarmé va pousser cette différence entre le sens lexical et le sens phonique au maximum. Dans son poème d'amour sans doute le plus profond, puisque c'est l'être qui lui est le plus cher, la fameuse Mary, Marie-Mary, aussi cher de loin. Ah, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est qu'il y a le mot cher, le sens lexical de cher, c'est quelque chose de proche, hein? C'est cher, c'est proche. Mais phoniquement, c'est loin. Aussi cher, j'exagère un peu pour qu'on sente, de loin. Or, loin, au point de vue phonique, c'est tout près, loin. Mais au point de vue lexical, c'est loin, précisément, c'est éloigné. Aussi cher de loin. Alors il fait ce que tout grand auteur fait dans une circonstance comme celle-là. Nous avons vu ça chez Molière aussi. Hein, quand un dispositif est aussi essentiel et aussi difficile, on le reprend. Et il refait donc le coup. Et proche. Or le haut de proche est de nouveau quelque chose de lointain au point de vue de la phonie, le sens phonique, alors qu'au point de vue du sens lexical, bon, il est de nouveau tout près. et blanche. La blancheur étant, elle, cette fois chaude et proche, et étant éloignée lexicalement. Et il a son premier vers qui montre tout ce qu'est le monde de la caresse, tout le monde de ce qu'est la présence absente, aussi cher de loin, et proche, et blanche, si. C'est la fin du premier vers, ceci. Hein. Délicieusement toi, Mairie. Alors, que vais-je faire pour que nous entrions vraiment dans Mallarmé? Je vais vous lire Hérodiade, l'après-midi d'un faune. Eh bien non, je crois que le mieux est d'aller directement à cette pièce extrême, absolument unique dans la littérature universelle, qu'il a écrite tout juste avant sa mort. C'est la dernière fois que Paul Valéry le voit. Il lui montre les épreuves du fameux coup de dé. Qu'est-ce que c'est, le coup de dé? Un coup de dé, c'est, pourrait-on dire, d'abord une page blanche. La blanche. Un rien. Et sur cette page, des caractères. Mais le rôle des caractères n'est pas tellement de faire passer des messages. Non, le message essentiel, c'est les blancs, plus ou moins considérable entre ces caractères. En effet, Mallarmé imagine un jour que des journalistes viennent le trouver, situation impossible que Mallarmé réponde à des journalistes, mais enfin, il dit, admettons qu'il me pose la question, ce que vous pensez, monsieur? Il n'ajoute pas le monsieur, mais de la ponctuation. Et voici sa réponse, elle m'importe tellement, j'abrège là, et voici son texte, tant que je préfère, selon mon goût, sur page blanche, un dessin espacé de virgules ou de points, et leur combinaison secondaire, imitant nue la mélodie au texte. Donc je préfère au texte, suggérer avantageusement, si même sublime, il n'était pas ponctué. Certains d'entre vous auront peut-être eu une difficulté à comprendre la phrase, mais nous avons vu que Rimbaud a été obligé d'inventer le rimbaldien. Nous voyons maintenant que Mallarmé va inventer le mallarméen. Nous rencontrerons après le valérien, le claudélien, et plus proche de nous, il y a eu le lacanien. C'est bien le problème que nous avons soulevé des Rimbaud, à savoir que devant passer du monde 2 au monde 3, le langage a été obligé d'opérer à l'intérieur de soi-même un profond bouleversement. Alors nous nous jetons à corps perdu, et ici ce n'est pas une figure de style, c'est bien ce qui est proposé par le texte lui-même, nous nous jetons dans le coup de dé. Si à certains moments, d'aucuns ont l'impression d'une folie, eh bien, ils sont très exactement dans la ligne du poème, puisqu'après avoir lu son coup de dé à Valéry, Mallarmé se tourne vers lui et lui demande « Ne trouvez-vous pas que c'est un acte de démence ?» N'attendant pas de réponse, bien entendu. Alors, je l'ai dit, nous voyons du blanc, et là-dedans des caractères de différentes grandeurs, de différentes épaisseurs, et mis plus ou moins haut sur les pages. Bien sûr, les caractères les plus grands, mais ils vont ensemble et doivent être pensés fort, sinon dits plus fort. Il y en a d'autres qui sont plus petits. Et également, ils sont plus ou moins hauts sur la page, et normalement, comme dans une musique, comme dans un texte musical, il devrait être dit chanté, pensé dit pensé chanté, plus haut ou plus bas. Alors, quels sont les plus gros caractères que nous rencontrons? C'est un coup de dé, jamais, n'abolira le hasard. Comme on le voit, Mallarmé prend parmi les plus forts qu'on puisse trouver dans l'histoire de l'univers. Qu'est-ce qu'il y a à peu près de plus intrigant? Ce sont des dés. Et les dés, pourquoi? C'est écrit avec S, il ne faut surtout pas l'oublier. C'est bien deux dés au moins. C'est que les dés sont à la fois des formes régulières, ce sont des cubes, ce sont des objets matériels, et en même temps ce sont des objets mathématiques, c'est-à-dire hautement rationnels, et en même temps irrationnels, conjoignant vraiment le fond de l'histoire du monde, toute l'intelligibilité et toute l'inintelligibilité de l'univers. Un second mot tout aussi terrible, c'est le mot « jamais », probablement plus fort que le mot « toujours », suivi du verbe « n'abolir ». On se souvient des abolis bibelots d'inanité sonore, c'est un mot qui intéresse beaucoup le milieu littéraire à ce moment, mais c'est un mot énorme, « aboli », parce qu'il contient à la fois la croissance, « olescere », croire, et en même temps la décroissance du « ab » olescere. Un coup de dé jamais n'abolira, avec la négation qui vient encore s'ajouter à ça, la négation qui est dans le mot, il y aura une croissance, mais cette croissance sera une première fois détruite, elle sera une seconde fois détruite, et pour finir aboutissant à quoi? Au mystère dernier qui est le hasard, ce qui n'est même pas nommable dans nos langues. Hein, ces parcs impossibles qui sont le clinamen, le fameux clinamen qui dans les systèmes de Lucrèce et d'Épicure fait que quelque chose va se passer. Eh bien, nous aurons beau rationaliser tant que nous voudrons, en même temps nous pourrons essayer d'être le joueur. Rappelons-nous que le joueur de Dostoïevski est écrit une vingtaine ou une trentaine d'années plus tôt, et que Dostoïevski avait très bien vu à quel point le vrai joueur est un métaphysicien. Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Et nous allons être un peu indiscrets, nous allons aller regarder la toute dernière ligne. Toute pensée émet un coup de dé. Ah, là, nous voyons bien quels sont les enjeux, qui sont ceux aussi de Dostoïevski. C'est-à-dire que l'homme est ce joueur qui joue au dé, et il joue au dé grâce à quoi? Quel est le grand jeu de dé par rapport à l'univers? C'est bien entendu la mathématique, et c'est la physique. Et je crois qu'avant de continuer, il faut pendant un instant voir dans quelle situation se trouve l'homme des années 1880-90, dans une découverte non plus de quelque chose de limité autour de lui qui est le monde, le mundus, le propre, celui qui n'est pas immonde, mais la découverte de l'univers. C'est le moment où Flammarion va sortir son astronomie populaire, mais avait écrit son ouvrage sur les systèmes habités extraterrestres, et c'est surtout le moment où, depuis 1850-60, l'humanité s'est trouvé devant les deux affirmations les plus violentes, à savoir les deux principes de la thermodynamique. L'énergie se conserve, l'énergie se dégrade. C'est-à-dire qu'elle s'use en tant qu'énergie utile. Nous autres, nous ajoutons maintenant... Elle peut se regrader localement, moyennant un apport d'énergie environnant, etc. À ce moment-là, on n'a pas une vue de ce que l'on pourrait appeler ce troisième principe de la thermodynamique. Et l'être humain se trouve devant cette vérité qui lui paraît épouvantable et dont nous avons encore la terreur exprimée dans les dernières pages de Poincaré, et qui est que l'énergie se dégradant, l'univers va vers une mort de l'univers. Et cette mort de l'univers, c'est quoi? C'est l'étale, c'est l'horizontale. C'est-à-dire que tout ce qui aura pris une certaine émergence par rapport à cette horizontalité finira par rentrer dans l'horizontalité définitive. Et qu'est-ce qui peut nous donner l'idée de cela? C'est évidemment la mer. L'océan est bien cela, c'est ce plat dans lequel il y a des vagues qui surgissent, qui écument, qui lancent de la lumière. Mais en même temps, chaque fois, elles reviennent au grand plan. Et nous avons beau, nous, sur notre bateau, être le maître dressé du fond d'un naufrage dans ce bateau et pousser le cri le plus fantastique, pour finir, ce cri va être repris par l'océan. Eh bien, c'est ça que maintenant, il va ressortir dans le coup de dé. En effet, je vais commencer à lire en dessous du grand texte. Un coup de dé, jamais, quand bien même lancé dans des circonstances éternelles, du fond d'un naufrage, soit le maître. Même si le maître est, dans des circonstances éternelles, les circonstances les plus sublimes, celles par exemple de la tragédie grecque, quand bien même le coup de dé serait lancé par cette pensée au maximum de son expansion, quand bien même lancé dans des circonstances éternelles du fond d'un naufrage soit le maître, n'abolira, vous avez bien suivi, hein, un coup de dé, puis jamais, n'abolira le hasard. Et maintenant je dis ce qu'il y a entre cette abolition et le hasard. Eh bien il y a ceci, quelle est la seule chose, je l'ai dit tout à l'heure, on ne pouvait pas y résister, la seule chose qui nous permet de lutter contre cet univers, c'est le chiffre. Alors, entre n'abolira le hasard, qu'est-ce que nous entendons? Comme si, justement encore un des tout grands mots de la logique, comme si, répétez deux fois d'ailleurs, comme si, c'était le nombre. Eh bien, même avec ça, ce serait encore toujours le hasard. Pour finir, tous nos systèmes sont repris, en fin de compte, dans le hasard qui lui-même est un dé. Hasard. C'est le dé, en arabe ancien. Comme si, c'était, ce serait le nombre. Et alors, cette espèce de cri, qui est justement notre plus grande lucidité, et qui est le chiffre mathématique et physique, exista-t-il, il, avec le « i » qui joue toujours un rôle capital chez Mallarmé, aussi cher de loin, le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui, toujours cette ultime culmination, mais qui est mise ici avec un subjonctif imparfait, qui est évidemment le temps le plus mental, celui de l'effort intellectuel maximal. Eh bien, le nombre, donc, hein, existe-t-il? Commença-t-il et cessa-t-il? Se chiffra-t-il? Illumina-t-il? Ce serait le hasard. Eh bien, maintenant, je peux vous lire des textes encore plus petits, glissés dans ceux-là. Ce serait pire, non, davantage, ni moins, indifféremment, mais autant, le hasard. Vous voyez la symphonie, vous voyez Valérie sortant désespérée des concerts Wagner, disant, mais enfin, comment est-ce que nous, pauvres poètes, nous pouvons lutter contre ces machines fantastiques que sont les maîtres chanteurs ou que sont Tristan et Isolde? Alors ici, on essaye. Alors quand même, donc, après le hasard, y a-t-il encore une espèce de sommation de ce qui s'est passé? Le hasard, eh bien ceci, rien. Toujours les mots les plus forts de la langue, hein, qui est à la fois rien du tout, et en même temps c'est la raie, c'est la chose. N'aura eu lieu, le verbe essentiel, il y a, n'aura eu lieu, et dans un futur antérieur, qui est un temps aussi élaboré, aussi complexe que le mode qu'est existatif, illuminatif, n'aura eu lieu que le lieu. Pour finir dans cet océan, qui monte, mais qui revient toujours à son point de départ, rien n'aura jamais eu lieu que le lieu. Et le lieu, c'est quoi pour l'océan ? Inférieur clapotis quelconque, comme pour disperser l'acte vide, abruptement, qui sinon, par son mensonge, eût fondé la perdition du bateau, du navire qui coule, dans ces parages du vague, en quoi toute réalité se dissout. Mais rien n'aura eu lieu que le lieu, étant le même caractère que cela, excepté peut-être. Excepté. Grand acte intellectuel. Excepté quelque chose, le tirer, l'abstraire, peut-être, une constellation. C'est-à-dire un ensemble d'étoiles mises ensemble. C'est-à-dire l'objet, au fond, le plus irrationnel. Une constellation, songeons à la Grande Ourse, c'est à elle qu'ils sont, évidemment, ici. À la Grande Ourse. Et qu'est-ce que c'est qu'une constellation ? C'est cette chose qui, en fin de compte, est du pur hasard. Puisque ces étoiles n'appartiennent absolument pas aux mêmes distances, elles n'ont absolument pas les mêmes capacités d'émission, et nous les mettons ensemble, et nous en faisons la grande ours, la petite ours, le serpent. C'est-à-dire que nous donnons au plus irrationnel une structure rationnelle, nous le chiffrons. Ce qui n'empêche que pour finir, il revient à son statut de hasard. Et alors ici, nous allons suivre le texte final. Excepté, où ça ? À l'altitude. Excepté. En petit caractère, à l'altitude. Peut-être en grand, puis en petit caractère. Aussi loin qu'un endroit fusionne avec au-delà. Là, tout au bout du bout. Or, l'intérêt quant à lui signalé, en général, selon telle obliquité par telle déclivité de feu. Ah oui, là, nous pouvons en tirer quelque chose, puisque nous en tirons nos calculs de navigation. Vers quoi ? Vers le septentrion ? Non, vers ce doit être, le septentrion aussi nord. Une constellation. Et nous allons vers la fin. Froide d'oubli et de désuétude. Pas tant. Qu'elle m'énumère, sur quelque surface, vacante et supérieure. Quoi ça ? Une raison ? Non, simplement. Le heurt successif, sidéralement, d'un compte total en formation. Évidemment, jamais achevé. Veillant, doutant, roulant, tout est en petit caractère, tout va s'effacer, brillant et méditant, avant de s'arrêter à quelques points derniers qui le sacre. C'est toute notre dignité même que ce calcul-là. Toute pensée émet un coup de dé. Et pour finir, le sacre lui-même est repris dans le hasard.
Celui qui écrit ça est en même temps rédacteur du journal La Dernière Mode, où il donne des recettes de cuisine et où il décrit les toilettes du moment. C'est que, à partir du moment où on a saisi le fond de l'univers, on peut voir comment toute singularité, si minime soit-elle, est en même temps rien, et le sacre qui finissait le coup de dé. C'est aussi celui qui peut décrire un éventail, et dans le vent, le souffle de cet éventail, donner en quatre vers toute l'esthétique essentielle. Vertige. Voici. Frissonne l'espace comme un grand baiser qui fou de naître le contraire d'abolir l'être. Pour personne ne peut gémir ni s'apaiser. C'est bien ce que nous avait appris l'océan du coup de gueule.